Ce podcast vous est proposé par BPI France Université. Retrouvez les centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifranceuniversité.fr.
Les conquérants, une histoire humaine de croissance externe. Épisode 4, les 100 premiers jours.
Dans cet épisode de cette série de 5 podcasts, nous retrouvons une discussion entre Fabrice Prost, président de HEF, Xavier Naze, président du groupe Naze, et en fin d'épisode, Stéphanie Frachet, directrice investissement BPI, qui vous partagera son expérience. Je suis Pierre, fondateur de Toutac et animateur de podcast, et je jouerai le sparring partner de nos 3 invités. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Bonjour Pierre.
Dans ce 4e podcast, on va évoquer les 100 premiers jours. On en parle pour une entreprise, on en parle en politique. C'est toujours important ces 100 premiers jours. Et j'aimerais que vous évoquiez, au départ, entre nous, un souvenir dans le rachat d'une société, de quelque chose de marquant qui a fait ou le succès ou l'échec, je ne sais pas, de ces 100 premiers jours. Est-ce que vous avez un souvenir à partager ?
Alors, moi, je voulais revenir sur pourquoi les 100 jours.
Ouais.
Parce qu'on dit, oui, les 100 jours, c'est important, mais notre vécu des 100 jours, pourquoi c'est important ? C'est parce que c'est la période pendant laquelle les gens sont prêts à accepter du changement.
Ouais.
Et qu'au-delà, si on n'a pas fait les changements, la capacité à les accepter est beaucoup plus restreinte. Donc, si on doit changer, il faut le dire, dans les 100 jours, et prendre des décisions. Alors après, les décisions peuvent avoir des impacts sur le quotidien qui rentrent en jeu dans la durée. Mais par contre, le dire, c'est hyper important parce que sinon, on ne sait plus faire après. Donc ça veut dire que l'impact des 100 jours, il est très fort sur des boîtes où il va falloir faire beaucoup de changements. Moi, c'est ma première perception. Ma deuxième perception, c'est que dans les 100 jours, il faut se montrer. Parce que même s'il n'y a pas de changement à faire, il y a des éléments culturels, des éléments de stratégie à poser. Et il doit y avoir de la place pour les questions à ce moment-là. Parce que les alignements doivent se créer à ce moment-là aussi. Parce que sinon, derrière, les déceptions s'installent. Les gens constituent des représentations qui sont fausses. On n'est pas là pour les corriger. Et puis, l'incompréhension peut s'installer. Donc, pour moi, c'est ça. Les changements, c'est maintenant.
Ouais.
Et les représentations à très, très vite installer de la bonne manière.
Et je te pose quand même la question,
oui.
Qui est-ce que tu as un souvenir de quelque chose de marquant dans ces 100 premiers jours ? Un exemple de rachat que tu as fait, où tu te dis, là, il y a eu un déclic, quelque chose qui s'est passé.
Alors, j'en ai plusieurs, des positifs et des négatifs. J'en ai des positifs où, dans les 100 jours, j'ai l'occasion d'intervenir dans l'entreprise pour réunir tous les salariés et leur dire « Allez, on passe une matinée ensemble et je vais vous parler de qui est HEF et vous allez me questionner. » Et on est là pour tous parler. Donc la règle du jeu, c'est que personne ne va avoir l'opportunité de ne rien dire. Donc notez et derrière, je vais vous faire intervenir. Et vous allez tous y passer. Donc on est dans un jeu d'égal à égal où tout le monde va devoir s'exposer au travers d'un discours. C'est un jeu intéressant parce que toutes les représentations sortent à ce moment-là. Et le fait qu'on soit en collectif, ça permet d'aligner tout le monde sur les bonnes représentations. Par contre, c'est un jeu épuisant où pendant 4 heures, on est sur le grill.
Ouais.
Mais hyper important à mes yeux et une bonne expérience. C'est vraiment une pratique qu'on a maintenant généralisée. Chaque fois qu'on fait une acquisition, on prend ce temps et on prend le temps de faire parler tout le monde. Parce que le plus important dans la tête des gens, c'est ce qui sort. Et quand c'est sorti, ça fait complètement diminuer la pression. Et puis, ça crée de l'intimité. C'est une scène qui crée énormément d'intimité, donc de la confiance. Et on se dit les choses. Donc ça, c'est toujours très positif dans mon vécu. Un autre élément beaucoup plus négatif, c'est on a racheté en décembre 2020 une boîte aux États-Unis, 150 personnes, une grosse entreprise. Et bien sûr, on n'a pas pu se voir parce que pendant un an et demi, on a été bloqué. Or, c'était la première fois qu'on rachetait une boîte à un fonds d'investissement.
Ouais.
Et par définition, le dirigeant délégué par le fonds partait. Et il a fallu qu'on reprenne la direction. Et donc, notre président sur la zone Amérique a pris le flambeau. Mais nous, on n'a pas pu y être. Et on a bien vu que le sentiment d'appartenance qu'on avait pu créer au sein des salariés de cette entreprise, c'était avant tout un sentiment d'appartenance à l'ensemble Amérique au pluriel de notre orga, mais pas un sentiment d'appartenance au groupe. Et ça, bah, ça nous gêne parce que les éléments culturels, à notre avis, doivent quand même transpirer, respirer du siège et dès le départ. Et là, on voit bien que ça aurait été mieux si on avait pu se voir très vite.
Alors, deux questions pour toi, Xavier. La première, c'est as-tu un souvenir marquant ? Et puis, pourquoi ces 100 jours sont importants ?
Les principaux changements qu'on va apporter à la structure, généralement, on les dévoile très rapidement aux cédants. On dit, voilà, nous, généralement, quand on rachète une société, on lui déroule un peu ce qu'on va faire. Et très rapidement, on va se présenter aux collaborateurs.
Ouais.
Alors, malheureusement, dans les souvenirs un peu malheureux, ou en tout cas en lien avec l'actualité, puisque la crise sanitaire, comme l'évoquait Fabrice, lui, pour ses déplacements aux États-Unis, nous, on avait organisé début janvier un moment de convivialité avec une société qu'on vient de racheter. Un déjeuner, se présenter aux collaborateurs et avec Olivier, dire qui on était, quelles étaient nos intentions. On n'a pas pu le faire. On a senti vraiment de la déception, mais aussi chez les cédants, en disant non, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, on a fait le choix d'aller faire le tour des chantiers.
Ouais.
Donc, avec Olivier, on a pris une journée. Par chance, tous les chantiers étaient à Paris, en région parisienne. Donc, on a été se présenter. Ça s'est très bien passé. Les cédants nous ont fait un retour. Ouais, les mecs étaient hyper contents de vous rencontrer. C'était bien que vous vous présentiez. Et compagnie. C'est anecdotique, mais pour moi, ça reste important et c'est un élément culturel.
Oui.
Finalement, ce qui est dur pour les collaborateurs qu'on fait systématiquement, nous, c'est qu'on change le logo.
Oui.
Parce qu'on veut qu'il y ait une identité groupe.
Oui.
Voilà,
donc la marque change.
Donc le visuel change.
Oui.
Et ça, les salariés, souvent, soit habitués, soit attachés, soit les deux à leur identité visuelle. Parfois, c'était un passage difficile parce que c'est le dirigeant précédent qui avait fait le logo avec sa fille ou son agence de com ou son truc machin. Il est aussi attaché au visuel. Bon, c'est anecdotique, mais parfois pas tant que ça. Voilà.
Ouais.
Un autre souvenir que j'ai, c'est des collaborateurs d'une société qu'on a rachetée qui étaient en attente de changement.
D'accord.
Parfois, ça peut être l'inverse. Parfois, tout le monde a peur et dit qu'est-ce qu'ils vont changer. Et là, il y a eu d'autres cas où les collaborateurs viennent nous dire, tiens, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que nous, on attend du changement. On a envie qu'il y ait des choses qui évoluent de ça. On a la capacité, à notre taille, de s'adapter aussi beaucoup. Donc, si on voit qu'on va trop vite, on ralentit le rythme des changements. Et si on voit que les gens sont plutôt en attente et que les 100 premiers jours sont le bon moment pour y aller à fond, eh ben, on déroule. On a cette capacité d'adaptation, on veut pas brusquer les gens, à la fois on veut qu'ils voient du changement, parce que
c'est normal,
il y a un changement.
Il y a un changement.
Voilà.
Fabrice, en termes de transition, de structure, est-ce que lorsque vous rachetez une société, là on va mettre de côté la société américaine, c'est très particulier, est-ce qu'il y a une équipe de transition qui se met sur le sujet? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Paris systématiquement? Est-ce qu'il y a quelque chose un peu de mis en place pour dire, ok, on prend en main, donc j'ai 4 personnes qui systématiquement descendent, comment tu fais?
Oui, il y a un déploiement. Nous, on a une équipe qui est l'équipe de fonction support, qu'on appelle la corporate team, pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. C'est finalement l'équipe siège. Donc, il y a les RH, il y a la finance, il y a le juridique, il y a l'IT. Et ces gens-là sont souvent les premiers ambassadeurs qui se rendent sur place. Alors, certains ont été vus au moment de la due diligence et d'autres n'arrivent qu'au début de ce process d'intégration. Avec cette équipe, on s'est donné des codes en termes de curseur. C'est-à-dire qu'on dit, cette boîte-là, qu'est-ce qu'on veut comme niveau d'intégration? On a un curseur qui dit, intégration très faible. Donc, le mec de l'IT, il sait qu'il ne va pas déployer le RP là-bas. Il va juste valider qu'il n'y ait pas de problème de risque sur le plan informatique, de cyberattaque, de choses comme ça, que les mecs aient un truc qui tienne un peu la route. À titre d'exemple, et puis on a l'intégration totale, où là, il arrive et il dit, on fait une feuille de route sur 2 ans, et dans 2 ans, vous êtes dans notre RP, vous avez les mêmes logiciels que nous, et vous êtes un copycat de ce qu'on fait au siège. Et finalement, dans notre culture, on se rend compte que comme on acquiert plutôt une majorité de petites entreprises, on fait souvent un espèce de taillage sur mesure du curseur, du degré d'intégration qui nous paraît nécessaire en fonction de la sensibilité des équipes.
Entre autonomie et intégration totale, quoi.
Et finalement, ce qui finalise le niveau du curseur, c'est la demande. Xavier disait, mais le changement, parfois, il est demandé.
Oui.
Et nous, on essaie d'être très attentif à la demande. Et si la demande n'est pas formulée, on fait une suggestion en disant bah, « ouais, on pourrait vous amener ça, est-ce que ça vous tente ?» Pourquoi ? Parce que, je reviens sur la partie identitaire de la boîte, en fait, si on rachète des boîtes qui marchent bien, bah, faut être quand même très vigilant de ne pas casser le jouet, quoi. Si l'identité de la boîte, c'est ce qui fait que le jouet fonctionne, et je prends des gros raccourcis en disant ça, mais bah, laissons-leur leur identité. On essaie d'être très attentif à bah, qu'est-ce qui fait que la mayonnaise prend bien dans ce groupe d'hommes et de femmes. Et là, on est vigilant à respecter ces ingrédients, quoi.
Mais est-ce qu'il y a par exemple quand même une règle qui dit la compta, on la récupère systématiquement ? Alors, il y a des choses, quoi, quelques éléments clés. La trésor, on récupère. Je sais pas. Gestion de la trésor, plutôt.
Ouais. En fait, il y a des règles et des exceptions aux règles, quoi.
Ouais.
Voilà. Donc, quand appliquer la règle, c'est se donner à prendre un risque, ben on dit non. S'il y a plus à perdre qu'à gagner, on n'y va pas, quoi.
Alors moi, oui, effectivement, il y a des choses auxquelles je ne veux pas déroger, comme la reprise de la compta, la reprise de la trésor, la reprise de la relation bancaire, la mise en place de notre ERP. Voilà, il y a des choses que je veux mettre en place, bien sûr avec des exceptions, à condition que ce soit applicable, notamment pour l'ERP. Si l'ERP, oui, il n'a pas, oui, de sens dans leur activité, on n'en parle pas. Ce qu'a dit Fabrice est très, très juste. Les personnes qui vont être en charge de l'intégration chez nous au siège sont les ambassadeurs du groupe, de la culture.
Donc, il faut qu'ils aient le bon comportement aussi quand ils arrivent. Humaine.
Voilà, exactement. Il faut qu'ils aient le bon comportement. Moi, l'équipe qui s'en charge, c'est des collaborateurs qui ont beaucoup d'ancienneté dans le groupe, qui nous connaissent très bien avec Olivier, qui connaissent très bien notre mode de fonctionnement et du coup, qui sont des bons ambassadeurs pour nous. Donc, c'est important quand vous envoyez quelqu'un qui fait de la RH ou de l'informatique ou de la compta qui se comporte bien avec les équipes, pas donner le sentiment ou une image qui correspondrait pas à notre image. On a une forte capacité d'adaptation, il faut que ça transpire à tous les étages.
Et sur le registre qu'évoquait Fabrice tout à l'heure, qui est l'autonomie ou l'indépendance, où se situe le curseur pour toi ?
On s'adapte en fonction du dirigeant, en fonction à la fois de sa volonté et de sa capacité.
Ouais.
Si c'est un dirigeant, j'ai deux sociétés où les dirigeants actuels sont les anciens propriétaires de la boîte. Donc, si tu veux, ils sont très au fait des problématiques d'entreprise, de la sensibilité, de la trésorerie. C'est des gens en qui on peut faire confiance les yeux fermés. Nous, on avait plutôt une culture dans la boîte où, typiquement, un détail, on laissait pas de carte bancaire généralement aux collaborateurs ou, ouais, ou aux dirigeants. On a racheté des sociétés où les anciens dirigeants, ils étaient habitués à avoir cette facilité-là, on la laisse.
Ça, c'est des éléments psychologiques comme l'image de la société.
Voilà. Ça peut paraître des petits éléments anecdotiques, mais finalement...
C'est pas tant que ça.
Un dirigeant à qui on lui dit « Rends-moi ta carte bleue », vous pouvez vite le froisser.
Ouais.
Ou lui dire « ta voiture, tu vas la remplacer par une voiture de gamme inférieure parce que c'est la politique groupe. Ouais. » Voilà. Nous, on n'est pas comme ça. On s'adapte à la personnalité du dirigeant.
Un des éléments, lorsque dans les 100 premiers jours aussi, c'est la relation éventuellement avec les syndicats, avec les instances représentatives du personnel. Comment vous jouez ce travail avec ces équipes qui sont en place, de facto, des syndicats ?
C'est une bonne question. Chez HEF, on n'a pas de syndicats. Pour une raison toute simple, c'est que...
Les salariés détiennent
deux tiers du capital. Les salariés détiennent la boîte et on ne saurait pas bien quoi se raconter parce que le syndicat est souvent porteur de combat et se battre contre soi-même, ça n'a pas beaucoup de sens. Puisque c'est un combat de classe, classe patronale contre classe salariale. Or, chez nous, c'est les mêmes. Mais par contre, il peut tout à fait arriver qu'on arrive dans des entreprises elles-mêmes syndiquées. Et en fait, ça crée vraiment un souci parce que les gars sont paumés. En fait, ils sont très désarçonnés et ils avaient un rôle. Ils avaient un rôle dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc, il faut qu'ils retrouvent une place. On a en fait souvent dû... aménager pour ses représentants syndicaux une raison d'être, quoi. Pourquoi je continue dans ce rôle, qu'est-ce que je peux apporter pour pas qu'ils s'aigrissent et qu'ils finalement rentrent dans des combats beaucoup plus égotiques et personnels que des combats de défense des intérêts des salariés.
Oui.
Puis un deuxième point, dans une entreprise qui est syndiquée ou qui ne l'est pas, il y a toujours un moment où se pose la question... avec un rachat que les salariés se musclent en renforçant une présence syndicale ou en faisant entrer une présence syndicale. Mmh. Et là, nous, notre modèle a fait jusqu'à maintenant que ça n'a pas eu de prise, quoi. Ça n'a jamais vraiment eu lieu.
Et par contre, question incidente qu'on n'a pas traitée jusqu'à maintenant, ouais. Tu rachètes une boîte, donc aujourd'hui les salariés d'HF sont un deux tiers détenteurs du capital. Qu'est-ce qu'il en est de ceux que tu rachètes? Est-ce qu'ils rentrent dans le capital de HF? Comment vous gérez ça?
Alors, il y a effectivement un vrai sujet là, c'est-à-dire que chez nous, dès l'instant où l'entreprise peut financer l'actionnariat salarié, parce que ça pose une question de financement dans le sens où on donne des actions aux gens qui achètent, en abondant, hein, c'est-à-dire qu'ils achètent une action, on leur en donne une. Donc, dès l'instant où les sociétés ont la capacité de financer ça, dès l'instant où elles projettent cette capacité dans la durée, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie solide, on leur propose de rentrer dans l'actionnariat salarié, ce qui, évidemment, pour elles, est un élément fort et important, socialement assez innovant. Donc ça, c'est une formule dans laquelle, finalement, ça se fait dans la durée et on a des critères. Et les gars, c'est transparent, ils savent que quand ils atteignent les critères, ils vont pouvoir rejoindre le système. Et souvent, ça se fait à l'échelle d'un pays ou d'un continent. On dit, là, sur ce sous-ensemble, on a les résultats, c'est solide, et on voit que ça se projette dans la durée. Donc, tous les salariés de ce sous-ensemble ont accès au même système, parce que le grand risque, c'est de créer des injustices à l'échelle d'une unité culturelle, on va dire. Voilà, donc un pays, souvent, c'est la bonne échelle. Et puis, deuxième élément, on rachète et les salariés sont déjà actionnaires. Et bien sûr, on a le problème qu'évoquait Xavier, à savoir, est-ce qu'on leur rachète leurs actions aussi? En général, notre façon de fonctionner, c'est de dire, nous, on ne veut pas de conflit d'intérêts. Donc, vous ne pouvez pas avoir des intérêts en tant que salarié dans la société qui ne représentent pas l'intérêt supérieur. Donc, si vous avez des intérêts dans la société...
Il faut un alignement, quoi.
Il faut que ce soit aligné par le haut. Ouais. Donc, vous allez devenir actionnaire tout en haut. Et il y a un process sur un an où on va vous dire, on rachète vos actions, on va vous demander de vous engager à utiliser cet argent tout ou partie pour réinvestir dans l'entreprise. Parce que finalement, si on est venu là, c'est qu'on a bien constaté qu'il y avait des salariés engagés et on veut que cet engagement se prolonge. Donc, ça fait partie du deal. Et les gars, oui, en général, jouent le jeu et acceptent. Avec chez nous un environnement d'actionnariat salarié contraignant, puisqu'on peut acheter quand on veut, mais on ne vend qu'en partant. Donc ils acceptent la contrainte, et pour nous, c'est un bon critère d'engagement.
De compréhension de
l'humain. Voilà. Okay. Et tu vois que dans ce contexte, on est amené effectivement à faire rentrer des nouveaux actionnaires salariés parmi les boîtes qu'on rachète au bout d'un an. Ils peuvent rentrer avec des montants importants, parce que si on rachète une structure dans laquelle... il y avait eu une activité florissante, ça a de la valeur. On a des gens qui peuvent rentrer à 500 000 euros en faisant un premier pas dans l'actionnariat salarié, ce qui fait des montants importants.
Important. Mm. Et de ton côté, groupe familial,
oui.
Quelle place pour les syndicats et aussi dans tes reprises, si ça existe, comment tu crées cette relation dans les 100 premiers jours?
Alors, on n'a pas de syndicat, comme Fabrice, dans l'entreprise. Tu l'as reprécisé, on est familial. On essaie de faire perdurer un visage très humain du groupe. C'est pas toujours facile, en grossissant, de conserver cette image et cette proximité. On est vraiment dans l'échange avec les collaborateurs. On prend en considération, en tout cas, on écoute les demandes. On n'a pas de conflit aujourd'hui. Ponctuellement, on en a, évidemment, sur des problématiques qui sont individuelles. On n'a pas de problème ou de demande ou de remontée collective d'insatisfaction ou d'évolution ou de changement. On essaie d'être plutôt proactif. On s'adapte avec les tendances du moment, si on doit parler de télétravail ou avec les évolutions réglementaires.
Bien sûr.
Et on est toujours dans l'échange avec nos patrons, avec nos collaborateurs, pour voir quel est le bon degré d'évolution, à la fois que ce soit bénéfique pour les collaborateurs, sans pour autant pénaliser l'activité ou la bonne marge de l'entreprise. Notre mot d'ordre pour maintenir ce climat, ce bon climat, c'est le bon sens. Voilà, le bon sens à tous les niveaux pour rester dans la discussion, jamais rompre le dialogue, et avancer, trouver des compromis.
Quand vous êtes dans ces 100 premiers jours, il y a les 100 premiers jours de la mise en place du plan opérationnel. Comment vous le suivez ? C'est-à-dire que c'est important d'un point de vue opérationnel, le business qui est fait ces 100 premiers jours ? Est-ce que vous avez une attention particulière ?
On est très vigilant au fait que le business continue à minima dans les mêmes proportions que la période précédente à notre acquisition. Ouais. Généralement, on fixe pas des objectifs. Bon, la première année, il faut faire plus 30%, et la deuxième pareil, et la troisième pareil. Un peu ce que je t'évoquais tout à l'heure, où finalement, on achète des boîtes en bonne santé, avec un bon niveau d'activité. On fixe pas des objectifs trop ambitieux. Et dans nos métiers, dans beaucoup d'activités, en tout cas dans nos métiers à l'heure actuelle, la complexité, produire plus, trouver du business, on en trouverait, mais il faut trouver les hommes. Donc la difficulté nous réside plutôt d'avoir les bons collaborateurs pour fournir aux clients le bon niveau de qualité aussi de production.
Donc ces 100 premiers jours, tu mets pas une pression spéciale sur les chiffres, tu viens pas, tu as dit le lundi 8h, tous les lundis je veux une réunion,
non.
Tu n'es pas dans ce mode de là.
Nous on a un calendrier de gestion qui est fait annuellement. On se réunit avec les responsables de filiales une fois par mois. On fait le point sur l'activité, sur les collaborateurs, sur l'ambiance, sur les nécessités de recrutement. S'il y a des problèmes avec des collaborateurs, parce que bon, ouais, parfois il faut licencier, hein, faut être parfaitement honnête, parce que ça se passe pas toujours bien avec tout le monde. Il faut pas non plus être dans le monde des bisounours. Mais sur les besoins d'investissement, sur les relations avec les fournisseurs, avec les clients, voilà, on fait un point mensuel qui se termine par un déjeuner, mais pas de pression outre mesure tous les lundis. C'est ce qui plaît à nos équipes, c'est qu'on leur demande pas du reporting bête et méchant tous les lundis matin à remplir 50 tableaux qui servent à rien. On a un outil de gestion qui nous permet d'avoir selon nous le bon niveau d'information au quotidien. Et une fois par mois on fait le point.
Je rebondis tout de suite sur ce que tu viens de dire et après je te passerai la parole, Fabrice. Tu dis quand il y a des... parfois ça se passe pas bien avec des collaborateurs. Je voudrais reparler de ces 100 premiers jours. Dans les 100 premiers jours, tu peux aussi découvrir qu'il y a des gens qui vont pas accompagner l'histoire parce qu'on pensait que puis ça va pas se faire. Est-ce que tu laisses du temps aux gens ou tu vas vite et tu dis écoute, non, on peut pas et il va falloir s'arrêter là?
On a plutôt tendance à être réactif dans toutes nos décisions. C'est-à-dire que si on considère que une personne ne va pas bien ou on va échanger avec elle, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'elle est rattrapable ou est-ce qu'elle l'est pas. Quand on a des incompatibilités fortes au sein des équipes ou qu'on a quelqu'un qui va pas, on traîne pas. On laisse pas un collaborateur qui va polluer le reste de la boîte, parce que la capacité d'une nuisance de quelqu'un qui est pas bien ou qui va pas ou dont le seul objectif c'est de nuire, ça peut être très préjudiciable, ça peut vous démotiver toute une équipe ou toute une boîte. Donc généralement nous on n'hésite pas, pour te donner un exemple, même à payer des gens à la maison. Lui dire non, bah écoute, ça va pas, ça le fait pas, ça va pas le faire.
On arrête là.
On est plutôt dans cette optique là.
Fabrice, deux questions. Plan opérationnel, qu'est-ce que tu regardes sur les 100 premiers jours? Quelle est la pression, la présence que vous avez? Et puis après, que fais-tu éventuellement des gens qui ne s'avèrent pas pouvoir suivre?
Ce qui est important dans notre schéma d'orga, c'est qu'il y ait une fenêtre d'entrée unique sur tous les sujets opérationnels pour le dirigeant de la boîte rachetée. Donc il a quelqu'un à qui parler. Voilà. Alors ça peut être un patron de division, ça peut être un gars qui a une responsabilité régionale, mais en tout cas, il a quelqu'un au siège, où s'il a un problème, il sait à qui parler. Ça, c'est hyper important.
Un parrain. Godfather.
Qui souvent est aussi une ligne de reporting, mais ça peut être une ligne de reporting avec un fonctionnement binomial, pas nécessairement un fonctionnement très hiérarchique. Pour respecter finalement l'identité de la boîte et que le gars, s'il avait des pouvoirs de décision importants, on les lui laisse. Donc ça, le fait de créer un lien au siège avec quelqu'un à qui parler n'importe quand, de n'importe quel sujet, c'est très important dans le bon déroulé opérationnel. Parce que le gars, il se retrouve tout d'un coup aux manettes, il n'est plus actionnaire. Donc il se dit, est-ce que je peux décider de ci, est-ce que je peux décider de ça? Donc en général, on sent que la volonté de réaliser le plan opérationnel est là. Et c'est plutôt les questions auxquelles on répond pas qui pourraient le bloquer. Donc, premier dispositif, avoir quelqu'un qui connaît bien la boutique, qui est l'interlocuteur et qui peut répondre à toutes les questions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les collaborateurs qui sont pas à leur place, Alors soit ils deviennent pas à leur place dans le cadre du rachat parce qu'eux-mêmes auraient souhaité racheter, ça peut arriver. Soit en fait le gars était mal entouré et on s'en rend compte. Et là, je suis vraiment d'accord avec Xavier. Il faut apporter beaucoup de soutien aux dirigeants qui constatent à ce moment-là, parce qu'un rachat, ça révèle beaucoup de choses. Et donc, si le dirigeant constate à ce moment-là qu'il est mal entouré, bah, faut lui dire, écoute, vas-y, quoi. T'as notre soutien, change. Et effectivement, allez vite. Moi, je crois que c'est important. C'est clé. Ouais, ouais. Et c'est vraiment le cadre des 100 premiers jours. C'est-à-dire que si en plus le gars qui était là historique assume que dans ses 100 premiers jours, c'est aussi l'opportunité pour lui de faire des changements et qu'il a quelqu'un qui le soutient, bah, ça se passe bien.
Je reviens un tout petit peu sur la question d'avant. Tu disais, finalement, il y a un point de contact important pour le dirigeant qui est racheté. De manière à ce qu'il y ait un dialogue qui se fasse assez facilement. Mais est-ce que toi, tu as des exigences de reporting, des exigences de suivi assez fort? Est-ce que tu as une structure où, un peu comme le dit Xavier, tu dis, bah, attends, business as usual, et on est ferme sur chaque mois creuser les choses. Quel est le degré d'implication, tu vois,
Donc nous, on a un tableau de bord financier. Économique et financier qui nous montre chaque mois quel est le niveau d'activité et comment ça marche. Et ça, on a le même pour... on en édite 120 par mois, donc pour toutes les boîtes du groupe. Et donc, on suit avec la même grille de lecture économique toutes les boîtes du groupe. Donc, ça veut dire que notre regard est hyper aiguisé. Et quand on voit un truc anormal sur un tableau de bord, en quelques coups d'œil,
on sait ce qu'il en est.
Tiens, là, il y a un truc, il faut que je questionne. Donc, on questionne quand on voit un truc anormal. Mais par contre, cet outil de reporting, on le met en place tout de suite. Et c'est vraiment un élément non négociable pour la peine, que les gens comprennent tout à fait. Donc ça ne pose pas de souci. La systématisation des points, on l'exerce plutôt sur le volet commercial. On dit aux gens, écoutez, nous, on a un système d'information qui est basé sur le fait que quand il se passe des choses au niveau commercial, eh ben, il faut que ça circule. Donc y a une rencontre, il y a un compte rendu et on s'oblige à lire tous ces comptes rendus d'activités commerciaux, parce que c'est avec ça qu'on imprime des représentations fidèles à la réalité, parce que c'est des informations prises du terrain. Et ça, c'est un deuxième truc qu'on leur demande. C'est de leur dire, bah, écoutez, vous viviez en vase clos, vous n'aviez peut-être pas nécessairement ce schéma de veille d'information, vous faisiez des mails, et bien maintenant, ce ne sera plus un mail, ce sera un compte rendu avec une liste de diffusion qui sera un petit peu plus large que ce que vous faites d'habitude, parce qu'il y aura un regard stratégique sur ces trucs-là, c'est notre source d'information principale.
C'est le business first, toi, en fait. C'est le palpeur auprès du client.
Ouais. On regarde la top line en étant conscient de ce qui peut se passer chez les clients. Et la bottom line, on la regarde en disant, bah, OK, est-ce qu'il y a des charges anormales? Est-ce que les ratios sont en train de dériver, etc. Auquel cas, on peut interroger le dirigeant. Mais sinon, c'est une relation dans laquelle, quand on l'interroge, on est plutôt là pour bâtir des solutions avec lui. Ce n'est pas un regard inquisiteur, c'est plutôt un regard pour lui dire, bah, tiens, nous, notre expérience, c'est quand ça se passe, ça peut être le symptôme de tel ou tel mal. Et toi, comment tu vois les choses?
Pour finir cette partie sur les 5 jours, et tu viens de l'évoquer finalement, je voulais qu'on parle des clients. Qu'est-ce que tu découvres? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que vous avez dit dans le podcast précédent que vous rencontriez si possible les clients, en tout cas les principaux. Et puis les 100 premiers jours, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des attentions particulières? Et est-ce que vous avez du vécu, des anecdotes à partager sur ce sujet?
Ouais, moi je peux te répondre rapidement. En fait, on était jusqu'à il y a 2 ou 3 ans dans une culture de pour vivre heureux, vivons cachés.
Ouais.
Curieusement, c'est les salariés qui nous ont dit, mais non, nous on aimerait quand même que notre boîte rayonne à l'extérieur et qu'on nous connaisse, parce que ça serait un élément de fierté pour nous. Voilà. Et puis en même temps, bah, on entendait la mélodie de l'image employeur, de la marque employeur, pardon. Et tout ça a basculé à un moment donné. On a dit, bah, ouais, OK, on va plus communiquer. Et en fait, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'on fait un rachat, on le dit, et ça génère des clients. Et pourquoi ça génère des clients? Bah, parce que dans la presse, les gens disent, oulala, mais tiens, finalement, ce groupe-là, il a acheté telle boîte. Tout d'un coup, il y a une compétence qui s'est formée, qui n'existe pas ailleurs. Donc voilà, synergie de rachat. Et là, il nous intéresse vraiment, parce qu'on va peut-être trouver beaucoup plus près de chez nous une compétence qu'on allait chercher de l'autre côté de la planète. On le voit beaucoup sur des thèmes souverains, dans le monde du médical, ou dans le monde de la défense, ou dans le monde du nucléaire, où là, les États, bah, ils ont la nécessité de reconstituer un savoir-faire souverain. Donc quand on constitue un pôle de compétences et que ça se sait, ça fait venir les gens. Et des clients s'auto-déclarent. Donc, sur ce volet, oui, une synergie forte. Un autre exemple, et puis j'en resterai là, on rachète une entreprise petite qui n'a pas les reins financiers pour prendre des gros business d'un coup, et pourtant ils ont les compétences. Mais tout d'un coup, le regard des clients change et disent « Oula, mais maintenant qu'ils font partie d'un groupe, on va pouvoir filer des trucs beaucoup plus gros. » Et ils lâchent les vannes. Et du coup, la pente de croissance de la boîte change complètement. Et là, grosse synergie et on écrit une belle histoire.
Xavier, les clients, les 100 premiers jours, qu'est-ce que tu fais ?
Ce que vient de décrire Fabrice, on l'a vécu déjà, où effectivement, on rachetait des sociétés plus petites. Et les clients, quand ils savent qu'on rachète, ils voient un intérêt.
Ça les rassure ?
Ça les rassure. Ils se disent aussi, on va pouvoir leur confier plus de business, ils vont pouvoir monter en volume d'activité, ils vont créer des synergies avec d'autres filiales. C'est le cas sur la partie déploiement de fibre optique, qui est le gros chantier actuel en France. Finalement, on a acheté une société qui faisait du tirage et du raccordement de fibre optique. Notre autre filiale locale, elle fait du génie civil. Et ben, les opérateurs nous ont confié des prestations clés en main, avec les études, la prestation de génie civil et le tirage de raccordement de fibre optique. Donc, si vous voulez, on les a fait monter dans l'échelle de sous-traitance. Ouais. Où finalement, avant, ils étaient rang 5, 6, 7. Voilà. Parce que dans le métier, il y a beaucoup de rangs de sous-traitants et on est remonté dans la chaîne. Donc, création de valeur, création d'activité. Voilà, c'est vraiment du plus pour nous.
Avant de retrouver Stéphanie Frachet, de la BPI, merci Fabrice, merci Xavier.
Merci.
Merci.
Et on va se retrouver pour le podcast numéro 5. Ça va être la synthèse de ces 4 podcasts. On va évoquer l'analyse, les perspectives, les succès et les échecs de ce que vous avez pu faire. Merci beaucoup. Écoutons maintenant le point de vue de Stéphanie Frachet, celui d'une membre de conseil d'administration d'ETI qui accompagne, entre autres, des croissances externes.
Déjà, est-ce qu'il y a les 100 premiers jours nécessairement ? C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a un jour 1, un jour 2, un jour 3 après une acquisition. Il n'y a pas nécessairement, enfin, dans ce que moi j'ai pu observer, le fait de verbaliser, de structurer une période des 100 premiers jours. C'est-à-dire que par moment, la vie des affaires fait qu'on a fait cette acquisition, on sait pourquoi on l'a fait, on est très confiant sur ce qu'on va en faire et on s'embarque dans l'aventure. Et on déroule un plan qui n'est pas toujours hyper structuré. C'est-à-dire parfois, il faut laisser plus de temps à la cible pour rejoindre le groupe. J'ai en tête un exemple où on est donc actionnaire d'une société avec un autre fonds d'investissement qui est majoritaire et BPI France est minoritaire. On a acheté une société en Suède. La société dont on est actionnaire est française. Et on s'est dit, on va absolument pas intégrer cette cible tout de suite. On va l'acheter, on va la laisser sur le côté, vivre sa vie pendant au moins un an avant de l'intégrer dans la société qui a fait l'acquisition. Pourquoi on a fait ça ? Parce que la société dont on est actionnaire est une société qui était elle-même en phase de structuration importante. Il y avait un certain nombre de chantiers assez fondateurs sur lesquels on voulait que l'entreprise se mette en place, se structure. Et on s'est dit, si on intègre la cible maintenant, dans cette phase-là, non seulement ça ne va pas créer des synergies, mais ça va perturber le plan qu'on est en train de dérouler pour l'entreprise.
Nous remercions Stéphanie Frachet, Xavier Neyze et Fabrice Prost de leur témoignage dans cette saga Les Conquérants.
Ce podcast vous a été proposé par BPI France Université. Retrouvez les centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifrance-université.fr.